Vous êtes sur les ondes de choc.ca et vous écoutez les Apatrides Anonymes. Et oui, nous sommes de retour d'un petit congé estival bien mérité, n'est-ce pas? Alors, pour ceux et celles qui nous syntonisaient pour la première fois, on vous rappelle que les Apatrides Anonymes, c'est votre rendez-vous bimensuel pour savoir tout ou presque des enjeux d'immigration, de sécurité nationale et de racisme au Québec, au Canada et un peu partout dans le monde. Marie-Ève au micro pour cette première émission de retour, accompagnée bien entendu de mes chers acolytes Simon en studio.
Salut Marie-Ève.
Bonjour Simon. Bonjour et Mathieu également.
Bonjour Marie-Ève, bonjour Simon.
Bonjour, bonjour.
Puis bien remis de votre...
De nos vacances?
Ouais.
Oui, oui, la rentrée un petit peu en retard, nous autres, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. Alors, donc, au programme de cette édition du 3 octobre 2019, on vous présente un examen des plateformes électorales des principaux partis fédéraux sur les enjeux touchant à l'immigration, bien entendu, et aux frontières. On vous présente également un nouveau segment qu'on a intitulé « L'évidence de la semaine ». Vous verrez ce dont il s'agit. On parle également de détention en isolement dans les prisons de ICE aux États-Unis et on aura également le retour du calendrier antiraciste. Mais d'abord, retrouvons Mathieu et ses traditionnelles actualités caquistes. Oh, ouh. Nous étions partis dans un espace intersidéral.
Pas longtemps, c'était intense mais court. Donc traditionnel et caquiste, j'aime bien ton amalgame que tu fais, Marie.
N'est-ce pas?
Écoute, la CAQ vole le show actuellement. On a beau être en campagne électorale fédérale, Simon va en parler tantôt, mais ils font des annonces à tous les jours, des nouvelles politiques, des projets de loi. Lundi, c'était le dépôt du rapport Vient sur les rapports entre les Autochtones et les services québécois. Hier, les excuses à l'Assemblée nationale, gros show. Donc, on peut pas éviter d'en parler, hein, de la CAQ.
Évidemment, même si c'est souvent des shows boucan, mais bon.
Oui, oui, puis ils fêtent leur grosse première année aussi cette semaine,
oui,
hein, de pouvoir.
Vrai.
Donc, et mon préféré, hein?
Simon Jolin-Barrette!
Voilà, voilà. Écoute, ce matin même, a mis en garde les chefs fédéraux en leur demandant de se garder une petite gêne. Hein, il a dit ça comme ça. Je sais pas si tous les chefs ont compris au fédéral. Mais d'arrêter de critiquer la loi sur la laïcité de l'État, ce qu'ils ont fait au débat hier soir, entre autres, en disant que la loi sur la laïcité de l'État fait maintenant partie de l'identité québécoise.
Ah, déjà?
Oui, la loi. Oui.
OK.
Ah oui, tout à fait.
Ben, ça le dit dans le slogan du Bloc, « Nous sommes la laïcité ».
Oui, ben c'est ça. C'est un bon lien, c'est bon, exactement, avec le
merci,
Bloc.
Merci.
Et même si la loi est contestée devant les tribunaux un peu partout, elle est déjà dans l'identité québécoise. La semaine passée, le gouvernement a dû reculer, toujours dans le contexte fédéral-provincial, au sujet du test des valeurs, parce que Ottawa veut rien savoir que ce soit une condition à la résidence permanente, parce que, bon, c'est pas les provinces qui décident c'est quoi les conditions à la résidence permanente, c'est le fédéral qui... résidence permanente, pardon, c'est le fédéral qui gère ça. Donc, il voulait lier le test des valeurs à l'obtention de cette fameuse résidence. Et là, il y a un mémoire destiné au Conseil des ministres qui a été divulgué dans les médias la semaine passée. Et maintenant, ça s'appellera plus le test des valeurs, ça va s'appeler... Écoutez, mesdames et messieurs, l'attestation d'apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises.
Ouh,
c'est ça,
ça...
C'est
ça,
plus
c'est la...
dilué un peu.
Oui,
hein?
C'est un peu technocrate quand même comme appellation, non?
Oui, ça va être un projet de règlement qui va proposer ça, qui va sûrement être adopté par le Conseil des ministres dans les prochaines semaines. Et ça imposerait donc cette attestation d'apprentissage à tous les immigrants économiques, sauf les moins de 18 ans, évidemment, donc les enfants à charge. Donc, l'attestation deviendrait plutôt un critère pour l'obtention du certificat de sélection du Québec qui, lui, mène à la résidence. Parce que, bon, on sait qu'au Québec, le Québec, on a une espèce de droit de sélection,
ouais.
Puis ensuite il propose au fédéral, c'est le fédéral qui a le dernier mot. Donc comme il ne peut pas la passer au niveau fédéral, il la passe dans le certificat de sélection du Québec. Hein? Très...
C'est
donc ça sera un préalable à l'obtention du certificat.
Exactement, l'obtention de passer...
Ce qui lui-même est un préalable pour...
la résidence permanente fédérale au Canada.
Non, OK, ça fait que c'est le formulaire rose pour pouvoir avoir accès au formulaire bleu,
oui.
Pour pouvoir avoir accès au formulaire jaune.
C'est malin, hein?
C'est très, très malin.
Donc, tout ça pour dire que, ben, évidemment, plusieurs groupes de défense des immigrants ont réagi en disant, on avait dit au ministre dans le cadre des consultations sur le projet de loi 9 que ça ne passerait pas de mettre cette condition-là pour la résidence, dont l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration. Donc, techniquement, vu que le ministre trouve qu'il y a trop peu d'immigrants qui participent à des séances d'information sur les valeurs québécoises, il veut imposer quelque chose, il l'avait dit, c'est une promesse électorale. Donc, ce ne sera pas un examen à proprement parler. Il y a deux façons de l'avoir. Une session d'information pour les candidats qui sont déjà en sol québécois, OK, et pour les, comme les diplômés et travailleurs étrangers, et pour les autres, une évaluation en ligne. Et les personnes vont avoir le choix de le passer le test le nombre de fois qu'ils veulent. Ils peuvent faire 8, 10, 12 échecs. Il faut qu'ils réussissent éventuellement. Bon, il y a un délai, j'imagine, qu'ils vont entrer en ligne de compte. Mais surtout en ligne, tu vas pouvoir le refaire souvent. Comme tu as permis de conduire en ligne, là, tu sais, ouais, la partie théorique.
Moi, peut-être, j'imagine, après 7, 8 fois, ben, on déménage en Colombie-Britannique aussi. Là.
Oui, c'est un bon choix, Simon. Ouais, 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 okay. Même l'Ontario, c'est moins loin. Tu sais.
Ouais, ouais, quelques 12 heures de char.
Et ça va être un test. Le contenu n'a pas été dévoilé, mais ça va être sur les valeurs dans la charte des droits et libertés du Québec et du Canada. Donc, c'est ça. Fait que voilà, ça, c'était l'annonce au niveau de ce test-là, mais on n'a pas les détails, comme je t'ai dit, les questions. On pourra s'amuser éventuellement avec ça dans une autre émission.
C'est toujours ici champion, en tout cas.
Aussi champion. Sinon, ben, dans le même mémoire qui a été déposé au Conseil des ministres, il revient sur la refonte du programme de l'expérience québécoise qui est destiné aux travailleurs étrangers et aux diplômés. On avait parlé que ça allait être plus difficile pour obtenir. Ça, c'est des gens qui sont déjà en sol québécois. Mais là, on voulait leur mettre des nouvelles conditions, dont le test des valeurs dont on parle. Et là, le ministre veut mettre en place une gestion de la demande visant à limiter le volume de demandes reçues, parce que c'était tout dans la foulée des 18 000 demandes qui traînaient aussi. Donc, il veut établir une liste des emplois en demande pour les travailleurs étrangers temporaires et les diplômés. Donc, dépendamment dans quel emploi tu vas aller travailler, même si tu es déjà ici puis tu es en démarche, tu vas être favorisé selon. Fait qu'on revient avec Arima, là, puis l'histoire de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, seuls ceux qui ont occupé un de ces emplois au Québec pour une période de 12 à 18 mois seraient admissibles au programme de l'expérience québécoise, qui est le programme d'immigrants économiques, finalement. Et évidemment, ben, les groupes réagissent en disant que ce sont des gens déjà en emploi, qui sont déjà intégrés, qui parlent français, et là, s'ils n'ont pas le bon métier, on les gardera pas. Bon, c'est un peu particulier. Donc, on parle d'inéquité entre corps d'emploi. Mais ce qui est particulier, c'est qu'aussi, on veut rajouter la connaissance du français de façon plus importante. Donc, Ça sera plus une condition, excusez-moi, je mélange.
Donc, je pense que ta connaissance du français,
oui, mais ma syntaxe est un petit peu difficile.
On va rétrograder, Mathieu.
Donc, si quelqu'un a suivi un programme d'études en français post-secondaire au Québec, ça sera plus assez pour automatiquement répondre aux critères du français. Il va falloir que tu fasses des tests de français, même si tu as fait un bac universitaire en français au Québec. Quand même pas pire, hein?
C'est quand même pas pire.
Et par contre, les gens qui font, les immigrants qui ont fait un DEP, qui sont dans le bon corps d'emploi, eux autres, ils passent automatiquement.
Fait que, tiens,
okay. Parce que c'est ça. Donc, 900 heures vont être suffisantes de formation. Donc, c'est toutes sortes de réformes, on brasse un peu les trucs pour toujours favoriser l'histoire de la pénurie de main-d'œuvre, les emplois qu'on veut avoir, les immigrants sur mesure, finalement.
Mais c'est ça, c'est un jeu d'entonnoir, dans le fond, tu sais, où est-ce qu'on dirige vraiment par tous les moyens possibles, les gens vers le type, vers les soi-disant besoins.
L'employabilité qu'on veut, c'est ça. Exactement. Donc, la plupart de ces mesures vont entrer en vigueur aussitôt que le 1er novembre prochain. Puis pour l'attestation d'apprentissage des valeurs, l'ancien test des valeurs, c'est pour le 1er janvier, si tout va bien. Pour compléter sur les actualités québécoises, ben c'est sûr qu'on peut dire qu'il y a peut-être eu un échange entre le fédéral, provincial. T'abandonnes ton histoire de test des valeurs pour la résidence permanente, puis moi, je te donne les sous que tu veux pour les immigrants arrivés de façon régulière, les migrants arrivés de façon régulière depuis 2 ans.
Okay, ouais.
On sait qu'Ottawa a versé 250 millions au Québec juste avant la campagne électorale. Ça représente les dépenses en 2017-2018 pour le logement, service de base des personnes arrivées de façon irrégulière par le chemin Roxham. Et c'est engagé Ottawa aussi à régler rapidement ce 2019 quand le nombre va être connu de personnes qui sont rentrées au Canada par le Québec. Et ils sont en train de négocier un mécanisme de répartition des différents migrants entre les différentes provinces.
Peu importe par où ils sont arrivés, quoi.
Fait que là, on parle d'un mini accord de Dublin.
Ouais.
Exactement.
Ouais,
pour ceux et celles qui connaissent. Ouais. Donc, pour y avoir une répartition, les fameux quotas en Europe. Mm. Et peut-être souligner qu'en 2018, il y avait eu 18 500 personnes qui sont rentrées de façon régulière, donc pas dans les postes frontières officiels. Cette année, au mois d'octobre, on est juste à 8 300. Donc, c'est ça un peu les chiffres. Puis si j'ai 2 minutes, monsieur le régisseur.
Bien sûr.
Peut-être mentionner aussi au niveau québécois que la protectrice du citoyen, Marie Rinfret, a sorti son rapport annuel la semaine passée. Et elle revient dans les points principaux sur les dizaines, sinon plus, d'enfants nés au Québec qui n'ont pas le droit à des soins de santé parce que leurs parents ont un statut précaire, ce qui est une des luttes de Solidarité sans frontières depuis des années. Donc, elle parle vraiment de personnes qui sont injustement privées de soins. Elle parle que le réseau de la santé interprète de façon restrictive, voire erronée, la loi, qu'il y a un préjudice qui est évident, donc elle demande de régler la question rapidement. Et elle évoque au passage que l'argument des cas de tourisme médical serait très marginaux, donc c'est pas une source de... c'est pas des données fondées. Et la ministre de la Santé a répondu qu'elle allait régler ça rapidement pour tous ces enfants-là. Donc, à suivre au niveau des enfants dont les parents sont statut précaire et qui n'ont pas le droit... On pourrait parler aussi de l'éducation, parce que c'est un peu le même dossier, là. Le même sujet. Donc, voilà pour mes actualités. Kaki, c'est québécoise.
Ben, merci, Mathieu. C'est toujours tellement inspirant d'avoir des...
À Québec, il se passe des affaires.
Passe des affaires à Québec. Alors, sur ça, on va aller en musique avec We Are Wolves et la pièce La Main de Dieu, qui est en 9e position au palmarès de Choc. Et tout de suite après, on va retrouver Simon avec les actualités fédérales.
pause. C'est Simon au micro sur les ondes de choc.ca à l'émission des Apatrides Anonymes. En studio avec vous, ben Mathieu et Marie-Ève sont toujours là aussi. Pour les actualités fédérales qui vont prendre la forme d'un grand résumé des plateformes des principaux partis en vue des élections fédérales qui auront lieu bientôt, le 21 octobre, je crois. Je vais parler ici, évidemment, je ferai pas le résumé des plateformes complètes parce qu'on en aurait pour jusqu'aux élections. Donc, les éléments liés à l'immigration, frontières, etc. Donc, tout d'abord, on va régler une question. L'élément qui est commun à toutes les plateformes des partis, c'est les fameux besoins du marché à combler. Donc, c'est vraiment le critère numéro un pour baser des ratios, des seuils d'immigration. C'est presque un mantra, donc on est en pénurie de main-d'œuvre au Québec, en Ontario, un peu moins dans les autres provinces. Et c'est pas toujours nommé de la même façon, mais tous les partis mettent ça en priorité et souvent on précise qu'on veut des travailleurs qualifiés ou vider, j'interprète un peu, vider les autres pays de leurs travailleurs qualifiés, dépendamment de comment on dit les choses. On fixerait le nombre d'immigrants en fonction des besoins du marché, chiffre pour lequel on ne propose pas de grille de calcul ou de méthodologie. Ouais. Moi aussi, j'échouerais le test de francisation, je crois. En tout cas, à l'UQAM. Ça doit être les besoins magiques du marché qui apparaîtraient, on ne sait trop où, quand, comment, et exprimés par qui, j'imagine, par un genre de panel de chambre de commerce ou de conseil de patronat. Alors, on va y aller parti par parti. On commence avec le principal adversaire du gouvernement actuel, soit le Parti conservateur du très coloré et féministe Andrew Scheer. Donc, je vais y aller vraiment, c'est en vrac, parce que c'est difficile des fois de faire des liens. Les plateformes, c'est un peu rédigé de manière un peu bizarre des fois. Donc, réfugiés et Parti conservateur, ça va pas toujours bien ensemble. Donc, les conservateurs ne les nomment pas explicitement dans leur plateforme. C'est un mot qui fait très peur à sa base électorale, mais on mentionne qu'on prioriserait les survivants de génocide.
OK.
En favorisant les parrainages privés, évidemment, question d'engager l'État le moins possible dans le processus. Donc, je dois mentionner, vous le savez, mais pour qu'un conflit ou un événement soit formellement reconnu comme un génocide par la communauté internationale ou même par le Canada, ça peut prendre des décennies. Parfois, ça n'arrive jamais non plus. Donc, bonne chance à tous les candidats au statut de réfugié. Autre élément, et oui, je vois vite comme ça. Les conservateurs veulent mettre fin à l'entrée des migrants au point de passage comme le chemin Roxham. Mais on parle pas de mur explicitement, on parle d'un dispositif. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas.
Peut-être un truc commandé à distance par des drones ou je sais pas quoi.
À partir du 24 Sussex, peut-être? Oui. Bonne idée, Marie-Ève. Je pense que tu devrais travailler pour l'Agence des services frontaliers. Donc, le Parti conservateur renforcerait l'entente sur les tiers pays sûrs avec les États-Unis et négocierait un tel accord avec d'autres pays du G7. Donc, tu sais, tant qu'à avoir un accord poche qui marche pas, pourquoi ne pas en avoir plusieurs? Donc, j'imagine que c'est la question qu'on s'est posée.
Ben, c'est vrai qu'il y a des postes frontières entre l'Allemagne et le Québec. Le Canada, il y en a beaucoup.
Oui. Ben, ouais. La plupart des autres pays du G7, c'est Japon, 5 pays européens, Canada, États-Unis.
Ouais, si ouais. Je me trompe, il n'y a pas de frontières communes, non.
Ben, en tout cas, on pourrait mettre, pour ceux qui arrivent irrégulièrement à Halifax, je sais pas comment, là, en radeau. les conservateurs s'opposent au pacte mondial sur les migrations de l'ONU, évidemment, qui est un peu la bête noire de ceux, celles qui se présentent comme patriotes ou nationalistes. C'est pourtant, ce pacte mondial-là, c'est un document qui est quand même technique, qui est probablement très peu de gens ont lu ou vraiment compris. Et contrairement à la rumeur alimentée par les gros empires médiatiques, le pacte de Marrakech est non contraignant juridiquement. Donc, qu'on s'y oppose ou non, ça change pas grand-chose. Le Parti conservateur se dit opposé à un test de valeur formel proposé par Québec, mais est bien à l'aise avec la baisse prévue des seuils d'immigration par le couple, le sexy couple Legault-Jolin-Barrette. Peut-être un trio avec Mathieu bientôt.
Un jour.
Le parti promet de mieux réglementer les consultants en immigration, donc toute la business autour des consultants en immigration. Modalité non précisée, donc peut-être à venir éventuellement.
Peut-être qu'on pourrait leur faire refaire un test un test d'un truc d'attestation à eux aussi.
Aux conservateurs?
Pas aux conservateurs, aux consultants. Ouais.
Ben, sûrement qu'ils seraient bons en management ou en portefeuille.
Mais ça, c'est pas dans le test des valeurs.
Non.
Non. Non. On parle de la démocratie, de l'histoire, de la citoyenneté, les habitudes, les traditions.
La monarchie.
Et les droits.
D'accord. bon, sinon, ça fait un peu le tour pour le gouvernement conservateur, mais la plateforme est pas
déjà
très...
gouvernement, hein, quand même. Hein?
Ah, ouais. Merde. C'est un lapsus, c'est un souhait, peut-être. Je sais pas. La plateforme en ligne, c'est pas très clair. C'est très difficile à naviguer. Donc, bravo aux journalistes, aux différents médias qui ont réussi à extraire de l'information dans ce genre de foutoir qui est le site web du Parti conservateur. On trouve surtout dans le site du PCC des petites capsules dont environ le trois quarts critiquent Trudeau, mais n'apportent aucun élément de programme clair. Donc, Scheer et ses proches ont vraiment un fétichisme sur Justin Trudeau. Plusieurs de ces petites capsulettes anti-Trudeau se trouvent maintenant périmées puisqu'on y parle abondamment de l'abandon du Québec par le fédéral dans le dossier des arrivées irrégulières au chemin Roxham. Dossier qui a été réglé, t'en as parlé tantôt, Mathieu, par le 250 millions et qui a été versé ou qui sera versé à Québec. Donc, il faudrait retirer toutes ces capsules-là qui disent « Ah, le fédéral a abandonné, là, c'est comme ça marche plus. » Fait qu'il reste pratiquement plus rien dans le site des conservateurs, sauf des « Michel Trudeau, Michel, Michel. » Bloc québécois. Le Bloc, ben disons que ça part mal avec leurs affiches au slogan que je disais tantôt, là, « La laïcité, c'est nous ». L'alignement idéologique de plus en plus complet avec la CAQ sur à peu près tous les dossiers, donc c'est pratiquement une éclipse totale, il fait très sombre. On le voit notamment dans les dossiers environnementaux avec l'appui au Bloc, au Troisième Lien, à GNL Québec, donc c'est la même chose pour l'immigration, alignement stellaire complet. Par exemple, et ça, t'en parlais aussi tantôt, Mathieu, grand défenseur de la loi sur la laïcité. Le Bloc québécois va déposer aussi un projet de loi pour que les personnes qui demandent la citoyenneté à partir du Québec aient obligatoirement une connaissance suffisante du français. Donc, c'est vraiment le porte-voix de la CAQ à Ottawa. La connaissance du français, donc, ce serait plus juste un critère parmi d'autres, ce serait une obligation. Donc, les gens, iront faire des demandes ailleurs. Le Bloc s'est aussi engagé à porter à Ottawa le message du gouvernement caquiste en ce qui a trait à la diminution des seuils d'immigration. Donc, le Bloc en fera un enjeu important, un de ses chevaux de bataille au fédéral. Le Bloc propose de suspendre l'entente sur les tiers pays sûrs. Attention. Donc, il y a comme une petite bouffée d'air frais.
Oui, non, c'est ça. C'est à peu près la seule mesure positive.
Il y en a une autre, une petite mesure. Je vais vous la dire tantôt, mais quand même, sauf que, ben moi, je pense croche, là, souvent, fait que là, je me disais que peut-être que, parce qu'ils veulent aussi en même temps accélérer le traitement des demandes de statut de réfugié, donc je me disais, plus une demande est traitée rapidement avec l'embauche de nouveaux fonctionnaires, ben plus les gens vont être obligés de quitter rapidement aussi. L'autre micro bouffée d'air frais dans la plateforme du Bloc, c'est on réclame d'Ottawa qu'aucune déportation ne soit effectuée vers des pays en conflit. Donc, ce qui est un peu déjà le cas selon l'esprit de la loi, mais la manière que c'est appliqué, c'est pas toujours le cas. C'est à peu près tout ce que je suis en mesure de vous dire pour le Bloc en ce qui concerne l'immigration, parce que son site web, c'est un peu à l'image des conservateurs, c'est un fouillis de PDF, de communiqués, sans trop de logique. Il y a même pas de section plateforme. Donc, j'ai fouillé un peu, mais encore une fois, j'ai dû surtout me fier à différents résumés, articles de presse. Par contre, dans le site du Bloc, il y a un trésor inestimable. C'est une chanson-thème de campagne composée et interprétée par Éric Lapointe. Ça s'appelle « Le Québec, c'est nous » et les paroles, c'est pas mal juste ça. « Le Québec, c'est nous ». Question de devenir fédéraliste, là, je pense, ou alcoolique.
Je l'ai entendu.
Ah oui?
Ah oui.
Est-ce que tu es devenu fédéraliste alcoolique?
Non, ni un ni l'autre. Je l'étais déjà pour les deux. Okay.
En tout cas, je suis félicité de l'avoir écouté au complet, si c'est le cas.
Ouais.
OK, on va continuer, on va poursuivre.
Ça alterne pas avec « La laïcité, c'est nous », le Québec,
oui, c'est dans la chanson. Tout est dans la chanson. Chanson
aussi. Ben, à moins que ce soit très mal prononcé, j'ai pas compris « La laïcité, c'est nous » là-dedans. Mm-hmm. Ah, ben merci de l'avoir écouté au complet, encore une fois.
Parce qu'ils disent plein de thématiques ou de thèmes, puis tu entends en arrière « C'est nous ». Tu sais, puis c'est...
Est-ce que tu peux le faire encore?
C'est nous.
Okay. On vous en fera peut-être jouer un extrait à la prochaine émission.
Oui, c'est
émission,
ça, franchement.
Question de rigoler un peu.
Ou peut-être un pot-pourri des meilleures chansons des différents partis. Parti vert. Plusieurs éléments intéressants, même surprenants, dans la plateforme du Parti vert. Donc, on y va un peu en vrac. Donc, le Parti vert s'engage à travailler avec les associations professionnelles pour essayer de régler la fameuse question des non-reconnaissances de formation à l'étranger. C'est une compétence qui est pas particulièrement fédérale, mais en tout cas, il y a le principe qui est exprimé. Autre élément, on mettrait sur pied une commission d'examen des plaintes civiles contre l'Agence des services frontaliers du Canada. ce qui ne ferait pas de tort. On redonnerait la citoyenneté aux personnes qui ont été déchues de leur citoyenneté. Le parti de Mme May dit vouloir faire une enquête sur la coopération canadienne avec des agences étrangères qui utilisent la torture, donc un des dossiers dont on vous parlait récemment. Mm-hmm. Probablement que c'est un peu dans le même esprit, les différentes... ben, je crois que c'est l'Agence des services frontaliers, justement, qui collaborait à l'étranger avec des régimes reconnus pour ne pas respecter les droits humains.
Une question concernant le fait de redonner la citoyenneté à des personnes dont... qui se sont fait retirer. Oui, c'est ça. Depuis combien de temps? On ne sait pas, ils remonteraient jusqu'à quand, ni... peu importe les raisons.
Non, mais les modalités, même le principe n'est même pas écrit. C'est vraiment c'est la plateforme des Verts comme à peu près toutes les autres. C'est comme des listes d'épicerie un peu. Mm. C'est des éléments très schématisés. Puis j'ai fouillé dans leur préambule, dans leur conclusion aussi. Ça dit pas pourquoi on redonnerait la citoyenneté aux personnes qui ont été déchues de leur citoyenneté. C'est un principe qui est exprimé. Point.
OK.
Les Verts, Parti Vert veulent créer une nouvelle catégorie de réfugiés qui sont les réfugiés climatiques.
Ça, il était temps, franchement.
Il était temps. Quand on est réfugié climatique, on vient souvent d'un pays où le contexte, ça se recoupe avec d'autres. C'est souvent des pays où on est victime de persécution ou bref. Mais oui, il était temps, comme tu dis, que ce soit explicitement mentionné. On parle de traiter les 200 000 dossiers des personnes actuellement sans statut au Canada. Donc, 200 000, c'est une estimation, c'est peut-être plus. Mais attention, pas pour nécessairement donner la résidence à tout le monde, mais aux personnes qui se qualifieraient. Ça non plus, Marie-Ève, c'est pas plus expliqué qu'il faut, mais j'imagine selon les critères actuels, c'est pas précisé. Ça rappelle un peu une promesse que Obama avait fait entre ses deux mandats. Qui avait très partiellement réalisé en régularisant 5 des 11 millions de personnes sans papier aux États-Unis, et c'était une régularisation provisoire. Parlant des États-Unis, le Parti vert croit que les États-Unis ne devraient plus être désignés comme un pays sûr, ce qui est quand même audacieux, étant donné l'imprévisibilité des pratiques d'immigration américaine. Autre élément, les Verts mettraient fin au programme des travailleurs étrangers temporaires, carrément, en rendant l'accession à la résidence permanente plus facile pour, entre autres, les travailleurs agricoles. Sinon, le Parti Vert a dû gérer une espèce de raciste, Luc Saint-Hilaire, candidat dans Lévis-Lotbinière, près de Québec. Mm-hmm. Il avait partagé sur Facebook un genre de mème dégueulasse réclamant que le président de la Grande Mosquée de Québec condamne officiellement un acte d'immolation survenu il y a quelques semaines, mais qui n'a absolument aucun lien avec la Mosquée de Québec. C'est pas tout. Monsieur Saint-Hilaire s'objectait aux commémorations de la tragédie de la Grande Mosquée. Il avait dit « C'est un drame fait par un déséquilibré qui aurait bien pu s'attaquer à un CHSLD à la place. » Donc, il a été expulsé du parti. Mais on se demande à la base qu'est-ce qu'il pouvait faire là.
Ciao, bye!
Ciao, bye!
Bye-bye, Monsieur Saint-Hilaire. Donc, j'imagine qu'il est allé pleurer sur Facebook et dans les jupes de maman. Les libéraux, donc on les... J'improvise, je devrais jamais sortir de mon texte, ça donne...
Ah non, vas-y Simon, écoute, tant que tu respectes ton temps, tout va bien.
Il me reste... il faut pas parler de ça. Okay. Les libéraux, on les connaît bien, ils sont au pouvoir depuis 4 ans, des sunny ways parfois orageuses. Il faudrait d'ailleurs qu'on ait des bruits d'orage, des fois de tonnerre, des fois pour accompagner les nouvelles sur les libéraux. Donc les troupes menées par Aladin Trudeau... On promet quand même beaucoup de choses dans la plateforme qui est assez détaillée, qui est assez bien faite, faut le reconnaître, mais ils ont du budget, évidemment. Beaucoup de choses qui auraient quand même pu être réalisées dans le mandat de 4 ans qui s'achève. Donc, on y va. Donc, lors d'une émission précédente, dans un segment sur les Sunny Ways, on vous démontrait que le ton avait un peu changé au Parti libéral, parlant maintenant d'immigrants illégaux, de magasinage chez les demandeurs du statut de réfugié. Donc, il y a un durcissement... certains, mais j'ai l'impression que le ton est pas ajusté encore. Les conseillers en communication de Trudeau doivent souffler un peu le chaud, le froid, savoir comment on s'adapte au discours populiste ambiant. Donc, ça va rester intéressant à observer dans les prochaines semaines avant l'élection. Donc, paradoxalement, la plateforme qu'on peut consulter, on n'hésite pas à aborder le sujet de la montée des extrêmes droites et des intolérances, comme le fait le NPD, j'en parlerai un petit peu tantôt aussi. Il y a quelques mesures annoncées pour lutter contre l'extrême droite, les crimes haineux, le racisme, dont du financement accru pour certains organismes et un encadrement plus serré des réseaux sociaux et des plateformes comme Facebook et Twitter. Sur l'entente des tiers pays sûrs, on semble déterminé à ne pas la supprimer ou la suspendre, mais à travailler avec les États-Unis pour la moderniser. C'est le terme employé, difficile d'être plus vague. Ça veut dire qu'on la maintient, en gros, ce que je présume, parce que moderniser, je sais pas ce
mais
que
on veut l'étendre à toute la frontière, c'est ça qui a été dit par Bill Blair une couple de fois. Là.
Ce qui n'est pas déjà le cas?
Non. Okay. Non, mais dans le sens qu'actuellement, tu peux passer entre les postes frontières, puis t'as le droit de faire une demande de réfugié. Mais là, ils veulent que toute la frontière au complet, ça soit considéré comme que tu n'as pas le droit. Tu es renvoyé automatiquement aux États-Unis comme dans les postes frontières.
Donc, il faudrait qu'ils revoient certains termes dans la loi.
Mais c'est ça, la modernisation. C'est de rendre plus dur.
Ouais. OK, c'est ça la modernisation. Mmh. D'accord. On continue, bon, d'autres éléments un peu pêle-mêle dans la plateforme des libéraux. Donc, on veut mettre sur pied un programme de candidats municipaux qui permettra à des communautés locales, des chambres de commerce, des groupes communautaires de parrainer directement des immigrants. Donc, une nouvelle forme de parrainage non familial, mais plutôt corporatif. On parrainerait non pas des réfugiés ou des membres de la famille, mais des immigrants économiques. Donc, grande nouveauté qui laisse un peu perplexe. Probablement une promesse qui ne sera pas réalisée parce que techniquement ou juridiquement, ça... En tout cas, bref. Aucune mention dans la plateforme sur les réfugiés, autre que pour vanter la soi-disant tradition d'accueil du Canada. Donc, c'est un sujet qui est pratiquement évacué. Lors de la dernière campagne électorale, il y a 4 ans, c'est un enjeu quand même central avec qui a fait l'objet même d'une promesse des libéraux pour le programme spécial pour accueillir les 25 000 réfugiés syriens. Autre petite mesure en vrac, instaurer la gratuité pour les demandes de citoyenneté. Ben, c'est-à-dire pour... effectuer sa demande, là, le formulaire, tout ça, ce serait gratuit, il y a des frais actuellement. Bravo. Dernière mesure à noter en ce qui concerne le Parti libéral, la création d'un organe d'examen pour l'Agence des services frontaliers, le seul organisme de sécurité qui ne possède pas son mécanisme de surveillance indépendant actuellement. Donc, les Verts veulent un canal pour traiter les plaintes envers l'Agence des services frontaliers. Les libéraux disent vouloir un mécanisme de surveillance indépendant. Donc, il y a une nuance entre les deux. Le dernier grand parti dont je vous parle, le NPD, nouveau parti démocratique. Donc, pour les libéraux, la plateforme du NPD mentionne les montées de l'extrême droite comme une menace à combattre. On parle d'une évolution terrifiante de la haine, surtout en ligne, et qui se traduit par de la discrimination et une hausse des crimes haineux. D'autres mesures, on veut prioriser et accélérer la réunification des familles en mettant fin au plafond des demandes de parrainage de parents et de grands-parents et en s'attaquant au retard du système. C'est le seul parti à parler de profilage racial de la part de la police, donc on interdirait les contrôles d'identité de routine effectués par la GRC et par tous les corps policiers au Canada. On veut mettre sur pied un groupe de travail pour se pencher sur la surreprésentation des Autochtones et des personnes noires en prison. On veut réviser le régime actuel d'équité en matière d'emploi pour aider à combler l'écart salarial lié à l'origine ethnique. Comme les conservateurs, on parle de réglementer l'industrie des consultants sans donner beaucoup de détails non plus. Et comme les Verts qui voulaient ouvrir une nouvelle catégorie de réfugiés climatiques, on veut créer une nouvelle catégorie de réfugiés LGBTQ+, peut-être avec une liste de pays non sûrs pour les personnes issues de cette communauté. Et le parti suspendrait l'entente des tiers pays sûrs avec les États-Unis, ce qui permettrait aux migrants de demander l'asile à un poste frontalier. Et non en passant dans un champ de foin dans la bouse de vache. Donc, bouse de vache finit là-dessus. Parti populaire du Canada, Maxime Bernier. Pas sûr de vouloir en parler. Peut-être, ben écoute, Mathieu peut-être peut revenir là-dessus dans quelques instants.
Ah oui, c'est pas grave si on n'en parle pas tant que ça. Hein?
OK, bon, on verra ça.
Oui, je prends le relais pour 2-3 minutes pour parler du Parti populaire du Canada, pas de son programme, parce qu'on le connaît pas, on le connaît. Quand on le connaît pas, on le connaît, puis quand on le connaît, on le connaît pas.
C'est très clair.
C'est très clair, parce que c'est de la bouse, comme tu disais. Peut-être juste dans le petit segment évidence de la semaine, c'est-à-dire le gros bon sens où je me tape le front, tellement c'est évident. Peut-être vous rappeler que dimanche dernier, à Hamilton, il y a eu du brasse camarade à une conférence de M. Bernier au Collège Mohawk, hein, c'est assez ironique, des manifestants antifascistes, antiracistes se sont tiraillés avec ses propres militants, militantes. Ils dénonçaient évidemment le suprémacisme blanc et les positions anti-immigration de M. Bernier. Et le lendemain, un de ses candidats en Nouvelle-Écosse qui s'appelle Chad Hudson a retiré sa candidature comme candidat pour le PPC en Nouvelle-Écosse, en disant que M. Bernier avait une approche sombre et dangereuse, qu'il y avait beaucoup d'éléments clivants et dangereux au sein de la formation, donc le PPC. Ce qui veut dire que le PPC ne pourra pas réaliser son objectif d'avoir des candidats dans toutes les circonscriptions du pays, ce qui est très, très triste. Et le candidat, donc, dit avoir longuement réfléchi après avoir pris connaissance d'informations sur les valeurs du parti et les choix de son chef. Et il s'est rendu compte que c'était pas selon c'était pas en accord avec ses valeurs. Ce qui a déclenché écoutez ça, c'est pas pire. Ce qui a déclenché sa réflexion, c'est les commentaires de M. Bernier à l'endroit de Greta Thunberg, qui l'a qualifié de mentalement instable. Ça, il l'a pas trouvé drôle. Il a dit que ça démontre un manque de jugement de Maxime Bernier et qu'il accorde trop d'importance aux personnes dangereuses qui font partie de son cercle rapproché. Ça, c'est le candidat Hudson qui dit ça. Donc, il a été perturbé aussi par la décision de M. Bernier de maintenir son appui à un candidat ayant tenu des propos racistes et transphobes. Et quand il s'est rendu compte qu'un ancien dirigeant d'un groupe néo-nazi américain faisait partie des fondateurs du PPC, là, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Donc, M. Hudson dit « J'avais réellement espoir de former un nouveau parti qui offrirait aux électeurs des idées rafraîchissantes et des perspectives différentes des vieux partis. Mais tout ça ne fait pas le poids devant ces bêtises racistes qui se trament dans l'arrière-boutique du parti. » Donc, voilà, le monsieur a démissionné parce qu'il en était trop pour lui. Il s'est rendu compte, à 2 semaines et demie des élections, qu'il n'était pas dans le bon parti, que c'était une bande de racistes, de bigots et d'extrémistes. Voilà.
Ben écoutez, mieux vaut tard que jamais, comme on dit.
Vieux moteur que jamais.
Voilà. Ouais. Merci Mathieu pour ce nouveau segment de l'évidence de la semaine. Là-dessus, on s'en va en musique avec les Pussy Riot et la pièce Make America Great Again.
We are glad to announce billionaire and everybody's favorite Donald Trump has won the presidential elections.
We are going to make America so great again.
Donald Trump made his first visit to Washington.
People have been maced, and the police look like they're blocking them in.
No more Muslims.
These are people that nobody knows who they are.
We better be careful.
No more Mexicans.
We're going to stop it, and we're going to build the wall.
You have to come in to be an American.
They're troublemakers. They're no good. We've got to take our country back, folks.
You know our job? No. Tell us, bitch. Yeah, that's right. Fuck that.
You know, fuck that. Fuck
you. Fuck you.
Speak American.
Look at this. Russian fucking passport.
Sign American.
What are you doing here?
Stand up.
No.
You don't understand.
America.
Your fucking neck. You don't understand. Put your hand down.
Burn him. Keep taking
it.
Outsider.
No more small breasts.
Do you want your world to look like? What do you want it to be? Do you know that the wall has two sides and nobody is free? Did your mama come from Mexico? Papa come from Palestine? Sneaking all through Syria, crossing all the borderlines. Let other people in. Listen to your women. Stop killing black children.
No more fat pigs.
Burn pigs.
Keep going.
Hey there.
That's going to be
push your head.
Let other people in. Listen to your women. Stop killing black children. Make America great again. Dun 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 da 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 da. Dun 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 da da.
Guilty. No more gay.
Could you imagine a foundation calling a woman a dog? Do you wanna stay in the kitchen? Is that where you belong? How do you picture the perfect leader? How do you want him to be? Has he promoted the use of torture and killing families? Did your mama come from Mexico? Papa come from Palestine? Sneaking all through Syria, crossing all the borderlines. Let other people in. Listen to your women. Stop killing black children. Make America great again.
Knock the crap out of them, would you?
Let other people in.
I'd like to punch him in the face, I'll tell you.
Listen to your women. Stop killing black children. Make America great again.
We'll see you tomorrow.
love the women.
Did your mama come from Mexico? Papa come from Palestine? Seeking all through Syria, crossing all the borderlines.
No more abortions.
Let the people in. Listen to your women. Stop killing black children.
Franchement, franchement, quelle pièce pour introduire le prochain segment des Apatrides Anonymes qui porte sur les, évidemment, les actualités internationales, puisque je vous amène encore aux États-Unis. Écoutez, comme lors de notre dernière émission, avant notre pause estivale en août, je vous ai parlé des tactiques de surveillance déloyale employées par ICE, l'agence de contrôle de l'immigration américaine. Alors, nous poursuivons aujourd'hui notre incursion dans les méthodes d'ICE, cette fois en nous penchant sur l'utilisation grandissante de la détention en isolement dans les prisons de l'agence américaine, dont les conséquences sont parfois fatales pour les personnes détenues. Selon un reportage de The Intercept qui a été publié à la fin août, et ce, au terme d'une longue enquête qui a été menée conjointement avec l'émission de Takeaway de la radio publique de l'État de New York, l'utilisation de l'isolement dans les prisons pour migrants est une pratique courante pour discipliner les détenus et gérer les cas difficiles, dits difficiles, alors que en vertu des normes régissant les détentions, la mise en isolement devrait être une méthode de dernier recours seulement. Je vous rappelle d'ailleurs que l'ONU a déterminé, et ça c'était en 2011, donc ça date pas d'hier, qu'une détention en isolement pour une période de plus de 15 jours constitue de la torture et que la pratique devrait être interdite lorsqu'elle vise des personnes aux prises avec des enjeux de santé mentale. Pourtant, 40% des détenus par ICE qui ont été placés en isolement avaient préalablement reçu des diagnostics de troubles de santé mentale. Ça représente, disons, 2000 personnes sur un total de plus de 55 000 détenus dans les établissements de ICE. L'isolement, évidemment, on le sait, là, on s'en doute, peut avoir des effets à long terme et exacerber les problèmes de santé mentale déjà existants. Les symptômes peuvent aller de l'anxiété sévère aux attaques de panique, en passant par la paranoïa, les hallucinations, la dépression, le désespoir, tout ça pouvant mener jusqu'au suicide. Ainsi, le 10 juillet 2019, Efren Romero de la Rosa, 40 ans, s'est pendu dans sa cellule après y avoir passé 21 jours en isolement à raison de 23 heures par jour. Romero était détenu au Stewart Detention Center en Géorgie, un des plus grands établissements de ICE avec une capacité de 2000 détenus. Le centre de détention, qui accueille principalement des demandeurs d'asile et des migrants en attente d'une déportation, est administré par CoreCivic, qui est une compagnie privée spécialisée dans la gestion des prisons. Avant sa détention, Romero avait reçu un diagnostic de schizophrénie et de troubles bipolaires. Tout au long de sa détention à la prison Stewart, sa santé mentale n'a cessé de se détériorer au point où il a été placé en veille de suicide ou en suicide watch en anglais et a même été envoyé dans une institution psychiatrique pendant une période d'un mois. Malgré ça, Romero a été placé en isolement par les autorités de la prison, alors même qu'ils étaient au courant de sa situation et de sa condition de santé mentale. Donc, il a été placé en isolement pour une période de 30 jours, soit deux fois la période limite fixée par l'ONU pour être qualifié comme de la torture. Évidemment, il a été... C'était dans le cadre de mesures disciplinaires. On l'a placé pour une période de 30 jours. Comme je vous disais, il s'est enlevé la vie au terme de 21 jours d'isolement. Le reportage de The Intercept jette un éclairage troublant sur les circonstances qui ont mené Romero au suicide. Là, j'entrerai pas ici dans les détails parce que ce serait vraiment trop long et fastidieux. D'ailleurs, mais on va mettre le lien du reportage sur notre page Facebook pour ceux et celles qui veulent que ça intéresse, qui veulent le lire. Mais à la lecture donc du reportage de The Intercept, on constate clairement que durant les 16 mois, durant ces 16 mois au Stewart Detention Center, donc de son arrivée au centre, en passant par le processus disciplinaire qui l'a mené en isolement et même jusqu'à la nuit de son décès, le personnel de CoreCivic a fait preuve d'une négligence scandaleuse envers Romero, que ce soit en ne tenant pas compte du diagnostic pourtant inscrit à son dossier, en ne prenant pas au sérieux ses nombreux signes de détresse, en refusant d'écouter les alertes de ses co-détenus ou en omettant de vérifier sa cellule aux 30 minutes pendant son isolement, tel que le prescrit le règlement interne. Même que je parlais aussi également là, du soir jusqu'au soir de sa mort, en fait, parce que ce soir-là, l'officier supérieur qui était responsable de l'unité de soins n'a pas entendu l'appel d'urgence médicale parce que sa radio était à plat. Pire encore, la bonbonne d'oxygène qui a été apportée à la cellule de Romero était vide et le défibrillateur portatif était introuvable dans les installations finalement de la prison. Les similarités entre le cas de Romero et un autre cas, celui de Giancarlo Jiménez Joseph, qui avait également reçu un diagnostic de schizophrénie et qui aussi s'est enlevé la vie au printemps 2017 après 19 jours en isolement, alors qu'il était lui aussi détenu au Stewart Detention Center, sont frappantes et tendent à démontrer que aucune mesure n'a été prise pour corriger la situation. Depuis le suicide de Giancarlo, il y a 4 autres détenus qui sont décédés entre les murs du Stewart Detention Center, Romero étant le 2e à se suicider. Même si elles sont pas toutes liées à des enjeux de santé mentale, ces morts mettent quand même en lumière l'ampleur des mauvaises conditions de détention qui y prévalent, que ce soit sur le plan de l'hygiène, que de la nourriture, mais aussi des soins de santé. Par exemple, au cours des 2 dernières années, il y a eu 300 appels qui ont été placés pour urgence médicale depuis le Stewart Detention Center. Urgence médicale allant de crises de convulsions à des douleurs thoraciques et abdominales. Mais de ces 300 appels, il y en a 4 qui ont été clairement pour des enjeux de santé mentale urgents. Plus largement, il y a au moins 25 personnes migrantes qui sont décédées dans des centres de détention de ICE depuis 2 ans. D'ailleurs, dans un rapport publié à l'été 2018, Human Rights Watch démontre que les problèmes liés aux soins de santé dans les établissements de ICE sont systémiques. On y apprend que des 15 décès de détenus qui sont étudiés dans le cadre du rapport de cette étude, 14 ont été le résultat de négligence et de pratiques dangereuses de la part du personnel pénitentiaire. Bref, c'est vraiment difficile de terminer ce segment de nouvelles internationales sur une note positive, d'autant que les cas et les problèmes systémiques mis en lumière dans le reportage de The Intercept semblent ne représenter que la pointe de l'iceberg. Je compte donc approfondir d'autres aspects de ce sujet dans les mois à venir, notamment la place du privé dans l'administration des centres de détention pour personnes migrantes aux États-Unis.
Justement, Marie-Ève, oui.
Je voulais profiter pour t'introduire, mais t'es... T'es amplement capable de t'introduire toi-même, n'est-ce pas?
Oui. Ça a l'air. Donc, aujourd'hui, justement, c'était la journée multiville ou nationale d'action contre la détention des migrants migrantes au Canada, organisée par SSF à Montréal, mais qui a été repris par Toronto, Ottawa, Sherbrooke, London, Halifax et Vancouver, dans le cadre de la campagne contre la prison pour migrants à Laval. Depuis plusieurs semaines, tous les jeudis, il y avait des actions. C'était un peu le point culminant de cette première étape là, de cette campagne, de la campagne actuelle. Donc, il y avait une manif devant les bureaux de l'agence à Montréal, dans plusieurs quartiers, et en fin d'après-midi au centre de détention de Laval. Donc, ça, c'était aujourd'hui. Soit aller voir les images.
Au futur centre de détention.
Ben, il y a déjà un centre de détention, mais le nouveau.
Ah oui.
Oui, évidemment, le plus propre, le plus grand, le plus technologique, le plus présentable. Donc, si vous voulez aller voir les images, les photos, les vidéos ce soir sur la page Facebook de SSF, allez-y. Sinon, dans l'agenda, ben, demain, 14e marche et vigile commémorative annuelle pour les femmes, filles, personnes trans et deux esprits autochtones disparus et assassinés. Ça se passe demain soir, 18h, au Square Cabot à Montréal, métro à Trois-Teux. Sous le thème « Arrêtons le génocide ». Donc, on reprend évidemment un peu ce qui a été la conclusion du rapport final de l'enquête nationale. On veut évidemment que les recommandations soient appliquées, que ça reste pas sur les tablettes. Et on veut que le génocide généralisé auprès des femmes et des filles, entre autres, arrête. Donc, organisé par Missing Justice et le Centre de lutte contre l'oppression des genres. Et aussi XQ, qui est le foyer pour femmes autochtones de Montréal. Donc, demain soir, 18h, au Square Cabot. Sinon, en fait, cette semaine, il y a le Festival pour l'autonomie corporelle organisé par la Riposte féministe. Beaucoup d'activités. On parle ici d'ateliers, poésie, soirées de poésie, spectacles, conférences, discussions. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a des trucs reliés aussi à l'immigration. Puis je trouve ça intéressant parce qu'on parle que dans le cadre de la campagne électorale, les attaques à l'autonomie corporelle font des gains chez les populistes et les partis de droite sont à l'ordre du jour. Donc, faire un festival sur les différentes identités, les différentes apparence physique, on pourrait dire aussi, et dans différents lieux militants à Montréal. Donc, ça se passe de jeudi à dimanche. Ça se passe autant au B7 dans Pointe-Saint-Charles qu'à la Place commune, l'ancienne Déferle dans Hochelaga-Maisonneuve. Et samedi, le 5 octobre, il y a, on appelle ça l'autonomie en mouvement, l'asile au Québec. Et il y a, à 13h, un atelier de discussion qui s'appelle Québec, terre d'accueil, femmes et demanderesses d'asile, droit et réalité, animé par Adèle Levaillé. Donc, entre autres, avec d'autres contributions. Fait que c'est toute la fin de semaine. Si ça vous tente, allez voir Riposte féministe sur Facebook ou Festival pour l'autonomie dans le sens d'automne, autonomie corporelle. Donc, ça vous tente d'aller voir ça. Sinon, vous dire aussi, la fin de semaine se finit par la contre-manif pour le droit à l'avortement dimanche, 14h, dimanche 6 octobre, 14h au métro Namur, parce que comme à la belle époque des années 90, il y a encore les fameuses chaînes pour la vie organisées par la campagne Québec Vie, les gens qui sont contre l'avortement, donc ils ne lâchent pas le morceau. Donc, il y a une manif.
Oui, qu'on devrait appeler les anti-choix et non pas les pro-vie.
Exactement, c'est ça. Et qui sont à 14h. Donc, la manif à 14h au métro Namur dimanche, le 6 octobre. Sinon, ben la gang du non au projet de loi 21, non à la loi 21 maintenant, c'est une organisation qui s'appelle comme ça, qui font des macarons, je sais pas si vous avez vu ça dans les dernières semaines. Et ils continuent la campagne contre la loi 21 pour le droit des minorités, entre autres. Et il y a des manifestations, ça se passe aussi dimanche. Montréal, Québec, Sherbrooke et Gatineau. À Montréal, c'est à 14h au parc à la place Émilie-Gamelin, donc ce dimanche. Donc, contre la loi 21, ça se poursuit la lutte parce que c'est en cours aussi actuellement et que ça va continuer à être contesté dans la rue aussi. Donc, dimanche, dans plusieurs villes du Québec. Et je vais terminer avec un lancement de livre, Lutte paysanne en Colombie, 1970-2016 par les Lacélis du PASC. On avait reçu quelqu'un du PASC, Camille, il y a quelques mois. Donc,
Revenait de Colombie.
Oui, avec le PASC justement. Donc, lutte paysanne en Colombie, 70-2016, lancement. Le sous-titre, c'est Conflit agraire, perspective de paix, avec Léla Célis, qui va être là, qui est l'auteur, qui est prof aussi à l'UQAM, et avec Marie-Christine Doran, Elisabeth Abergel, aussi des départements, qui sont aussi des universitaires. Donc, ça se passe à Zone Libre, le 22 octobre, 18h à 20h, lancement de livre sur la Colombie et le conflit actuel et l'accord de paix qui n'est pas respecté. Donc, voilà pour le calendrier. Puis, c'est l'automne, j'aurais pu en sortir.
Ben non, mais c'est ça que je m'en allais dire. Je voulais dire que justement, ça paraît que c'est la rentrée parce que cet été, des fois, on avait de la misère à trouver des événements, tu sais. Puis là, c'est ça, on a de la misère à faire un choix. Faut faire des choix.
Voilà.
Donc, avant le mot de la fin, on va retourner courtement en musique avec le groupe A Pigeon et la pièce Moon 5. Eh bien, ça se bouscule au portillon, alors nous allons... C'est maintenant la fin, donc merci à vous tous qui nous avez écoutés pour la première édition de l'automne des Apatrides Anonymes. Merci à Simon et Mathieu. Merci. Nous vous rappelons que vous pouvez également nous écouter en balado en vous rendant sur notre page sur le site de choc.ca ou encore sur notre site internet www.apatridesanonymes.info. Et vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook Apatrides Anonymes. Vous cherchez sur Facebook. Et on se retrouve avec Mathieu et Simon et votre humble animatrice Marie-Ève pour notre prochain rendez-vous jeudi 17 octobre à 18h30 sur les ondes de choc.
Bonne fin de soirée.
Bonne fin de soirée à tout le monde. Thank you.